Bonjour à tous. Le secrétaire général va vous présenter un exposé préparatoire à la ministère des Défenses, après quoi il répondra à vos questions. Bonjour. Demain, les ministres de la Défense de l'OTAN se réuniront pour débattre de la crise de sécurité la plus grave à laquelle nous ayons été confrontés en Europe depuis des décennies. Certains signaux de Moscou tendent à indiquer que la diplomatie doit suivre son cours. Cela incite à un optimisme prudent. Toutefois, nous n'observons jusqu'ici aucun signe de désescalade sur le terrain. La Russie a concentré en Ukraine et alentour des forces de combat sans précédent depuis la guerre froide. Tout est désormais en place pour une nouvelle attaque. Mais la Russie peut encore s'éloigner du précipice, arrêter ses préparatifs de guerre et commencer à œuvrer à une solution pacifique. Les alliés de l'OTAN ont indiqué très clairement que toute nouvelle agression contre l'Ukraine emporterait pour la Russie des coûts importants. Nous avons systématiquement exposé les agissements de la Russie, ses plans et sa désinformation, afin de dévoiler au monde ce que fait la Russie et de compliquer pour elle toute nouvelle action agressive. Dans le même temps, les alliés restent disposés au dialogue avec la Russie. Le 26 janvier, j'ai invité la Russie à une série de réunions au sein du Conseil OTAN-Russie. Nous avons adressé à la Russie des propositions concrètes pour un programme de travail substantiel, afin d'entendre les préoccupations russes, de partager les nôtres et de chercher un terrain d'entente. Nous sommes prêts à discuter des relations entre l'OTAN et la Russie, de la sécurité européenne, et notamment de la situation en Ukraine et alentour, et de réduction des risques de transparence et de maîtrise des armements. Mais nous ne transigerons pas sur nos principes fondamentaux. Chaque nation a le droit de choisir sa voie. Et il n'y aura jamais d'alliés de première classe et d'alliés de deuxième classe au sein de l'OTAN. Nous sommes tous alliés au sein de l'OTAN. Nous avons renforcé la dissuasion et la défense dans l'ensemble de l'Alliance afin d'éviter tout risque de malentendu ou d'erreur de calcul. Nous avons déployé des troupes, des aéronefs et des navires supplémentaires à l'est de l'Alliance, rehaussé l'état de préparation de la force de réaction de l'OTAN et renforcé nos groupements tactiques dans la région de la mer Baltique. La semaine dernière encore, j'étais en Roumanie afin de rencontrer les renforts que les États-Unis déploient avec d'autres alliés. Il s'agit d'une démonstration forte de l'engagement des États-Unis à défendre l'Europe de la mer Noire à la Baltique. Les ministres de la Défense des pays de l'OTAN vont examiner la nécessité d'étoffer encore notre posture de défense. Et je remercie la France pour son offre de diriger un nouveau groupement tactique de l'OTAN en Roumanie. Demain, je présiderai également une réunion ordinaire du groupe des plans nucléaires afin de veiller à ce que notre dissuasion nucléaire reste sûre, sécurisée et efficace. Les ministres de la Défense rencontreront leurs homologues de l'Ukraine et de la Géorgie afin de discuter de la détérioration de la situation de sécurité dans la région de la mer Noire. Les alliés de l'OTAN réaffirmeront leur soutien ferme à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de ces deux pays. Nous rencontrerons aussi nos partenaires de la Finlande et de la Suède, ainsi que l'Union européenne, afin de poursuivre nos consultations étroites et de renforcer encore la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. La crise actuelle, démontre une nouvelle fois l'importance d'investir dans notre défense. Les ministres se pencheront donc sur le partage des charges au sein de l'Alliance et je me réjouis à cet égard que nos derniers chiffres montrent 7 années consécutives d'augmentation des dépenses de défense parmi les alliés européens et le Canada. pour un montant total de 270 milliards de dollars supplémentaires depuis 2014. J'encourage à cet égard les alliés à poursuivre leurs investissements dans notre sécurité commune. Enfin, nous aborderons également le prochain concept stratégique de l'OTAN que nous adopterons en juin lors du sommet de Madrid. Je suis convaincu que les alliés renouvelleront leur engagement envers nos valeurs fondamentales et envers l'importance de l'unité entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Je vous remercie pour votre attention et je vais à présent répondre à vos questions. Reuters, en haut. Merci, Monsieur le Secrétaire général. La Russie a dit qu'elle renvoyait certaines troupes vers leur base après la fin d'exercices militaires. Est-ce que vous nous dites que ce n'est pas vrai? Vous avez dit que nous n'avions observé aucune évolution de la situation sur le terrain. Jusqu'ici, nous n'avons observé aucune désescalade sur le terrain, ni aucun signe de diminution de la présence militaire russe aux frontières de l'Ukraine. Mais nous allons continuer de surveiller la situation, de suivre de très près ce que fait la Russie. Et les signaux en provenance de Moscou, s'agissant de la disponibilité de la Russie à poursuivre les efforts diplomatiques, nous incitent, comme je l'ai dit, à un optimisme prudent. Mais nous allons bien sûr continuer de surveiller de très près ce qui se passe sur le terrain afin de voir si la désescalade suite aux concentrations de troupes en Ukraine et alentour, si cette désescalade se précise.
Terry Schulz, NPR. Est-ce vraiment important que ces troupes rentrent dans leur garnison? Ce n'est pas vraiment un signe de désescalade quand vous avez plus de 100 000 hommes tout près de l'Ukraine et de nombreux BTG. Mais le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a dit hier que la Russie avait préparé sa réponse aux États-Unis et à l'OTAN. Avez-vous reçu réponse à ces lettres? Merci. Non, nous n'avons pas reçu de réponse de la Russie, pas encore. Nous réjouissons de cette réponse. Nous leur avons envoyé en janvier nos propositions, des propositions substantielles. Cela faisait l'objet de deux lettres, une lettre des États-Unis, une lettre de l'OTAN. C'est une liste de sujets sur lesquels nous sommes prêts à débattre avec la Russie. La maîtrise des armements, les missiles, la transparence des activités militaires, etc. Nous sommes prêts, et nous sommes prêts depuis longtemps, et nous restons prêts à nous engager de bonne foi sur la voie du dialogue avec la Russie afin de trouver une solution politique. Par contre, ce que nous voyons sur le terrain depuis le printemps, ce sont des déplacements de force qui ne représentent pas une réelle désescalade. Parfois, nous voyons ces forces s'acheminer vers des positions prêtes au combat, avec des équipements lourds, en retirant certes les hommes, les troupes, mais en laissant derrière eux des équipements lourds, ce qui veut dire que les renforts peuvent revenir très rapidement sur ces zones lourdement armées en cas de besoin. Donc les mouvements de troupes, les déplacements des capacités russes à ce stade ne sont pas un apaisement des tensions. Mais nous allons suivre ce que la Russie fait et nous lançons un appel à la Russie d'apaiser les tensions, de retirer les troupes parce que ce renforcement militaire russe en Ukraine et aux frontières de l'Ukraine est sans précédent. Non seulement les troupes sont prêtes au combat, mais en plus l'ensemble des facilitateurs du combat permettant de mener une invasion de l'Ukraine pleine et entière sont en présence et toutes ces forces, toutes ces capacités étant en place, nous en concluons que la Russie peut mener une invasion de l'Ukraine avec très peu de temps d'alerte ou quasi immédiatement. Nous suivons donc ces développements de très près et nous pensons qu'il n'en reste pas moins qu'il y a une place à un optimisme prudent. Ce sont les signaux qui viennent de Moscou qui nous le disent, puisque Moscou exprime son désir de s'asseoir avec l'OTAN, les alliés de l'OTAN, et essayer de négocier une solution politique.
Thank you, Anna. Interfax Ukraine, Irina Sommer.
Interfax Ukraine, deux questions, si vous le permettez, Monsieur le Secrétaire général. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous donner davantage de détails s'agissant de rencontres éventuelles avec le ministre ukrainien de la Défense? Quelle sera la configuration? Qu'attendez-vous de cette réunion? Et ensuite, sur la menace d'une guerre, pensez-vous que l'OTAN pourrait revenir ou réexaminer la décision de Bucarest s'agissant de l'Ukraine, ou bien est-ce qu'il est plus facile d'abandonner l'Ukraine?
Je suis impatient de rencontrer le ministre ukrainien de la Défense. Nous allons également rencontrer le ministre de la Défense de la Géorgie. Les deux ministres de la Défense vont rencontrer les 30 ministres de la Défense de l'OTAN. Cela se déroulera jeudi. Et c'est à nouveau un signe du partenariat très proche, de l'importance du partenariat que nous avons avec l'Ukraine et du soutien ferme des alliés à l'Ukraine. Les ministres de la Défense réexprimeront leur soutien à l'Ukraine, à sa souveraineté, à son intégrité territoriale. Et comme vous le savez, l'OTAN apporte une aide à l'Ukraine par le biais du renforcement capacitaire. Nous avons aidé à moderniser les institutions de défense et de sécurité de l'Ukraine. Ce sera probablement abordé à cette réunion. Nous avons apporté notre aide sur le front de la cyberdéfense. Et plus, en plus de ce que nous faisons à 30, certains alliés en bilatéral apportent aussi leur aide à l'Ukraine. Donc le soutien politique et pratique à l'Ukraine sera débattue à cette réunion. Je pense en outre que cette rencontre sera une opportunité pour nous de palper s'il y a des signes qui vont dans le bon sens ou si le renforcement militaire russe en Ukraine et autour de l'Ukraine se poursuit. Alors, il est trop tôt pour préjuger des résultats de ce débat, mais lorsque la situation est aussi tendue qu'elle ne l'est actuellement, il est important que les consultations soient étroites avec les partenaires proches comme l'Ukraine. Et nous allons poursuivre dans cette voie. En outre, nous sommes en contact très régulier sous divers formats avec le leadership ukrainien. J'ai discuté à plusieurs reprises avec le président Zelensky et nous sommes en contact très étroit avec le gouvernement ukrainien. Ah oui, pardon, et j'oubliais la décision de Bucarest. Cette décision ne change pas. L'OTAN est fermement convaincue que tous les pays ont le droit de choisir leur cheminement politique et la porte de l'OTAN reste ouverte. L'élargissement de l'OTAN est un franc succès. Il a aidé à répandre liberté, démocratie, à assurer la paix et la stabilité en Europe depuis des décennies. Donc cette décision n'a pas changé.
Le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Monsieur avec les lunettes. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Ces derniers jours, la France a indiqué qu'elle n'était plus disposée à considérer que l'accord OTAN-Russie, l'acte fondateur OTAN-Russie, resterait valable en cas d'invasion de l'Ukraine. Est-ce que vous allez évoquer l'acte fondateur OTAN Russie en ministériel? Et est-ce que vous avez le sentiment que l'état d'esprit des alliés a pu évoluer depuis l'invasion de la Crimée en 2014, s'agissant de cet acte fondateur?
Une invasion de l'Ukraine par la Russie serait une violation flagrante de l'acte fondateur OTAN-Russie. Mais ce n'est pas la première fois. Les alliés de l'OTAN restent liés par cet acte fondateur. Nous croyons dans l'importance de respecter toutes nos obligations internationales. En ce inclut l'acte fondateur OTAN-Russie. Et nous avons vu précédemment que la Russie a violé cet acte fondateur par l'usage de la force militaire contre l'Ukraine en annexant de manière illégale la Crimée. Par contre, nous restons convaincus de l'importance de cet acte fondateur. Et j'ajouterai d'ailleurs à ce titre que nous sommes également fermement convaincus du bien fondé de la double approche. Le dialogue, parler à la Russie et dans le même temps avoir une dissuasion et une défense forte. Cela reste notre position aujourd'hui.
Associated Press. Lone Cook, Associated Press. Vous êtes exprimé à propos des mouvements de troupes et des types de troupes et d'équipements que la Russie déplace depuis quelques jours, des aéronefs de combat, des S-400, des éléments facilitateurs, des centres médicaux, des centres logistiques, des équipements de commandement et de contrôle. En s'agissant de ceux dont la Russie dit qu'elle va les retirer ou qu'elle est en train de les retirer, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui pourraient être retirés et qui sont essentiels à la Russie pour mener une éventuelle attaque? Et une question subsidiaire, si vous le permettez, est-ce que ces dernières semaines, vous avez pu constater une menace directe pour la sécurité de l'un ou l'autre allié?
À ce stade, nous ne voyons aucun signe de désescalade sur le terrain de la part de la Russie. Ces derniers jours, nous avons même vu l'inverse, un renforcement constant du dispositif, plus de groupements tactiques, plus de capacités létales, artillerie, défense aérienne, missiles et beaucoup d'éléments facilitateurs qui permettraient à la Russie de faire mouvement, d'envahir l'Ukraine ou de procéder à une incursion plus limitée, sans préavis ou presque sans préavis. Cette situation, à nos yeux, n'a pas changé, mais nous suivons de très près ce qu'il se passe, ce que la Russie fait, et nous pensons donc qu'il y a place pour un optimisme prudent suite aux signaux qui viennent de Moscou et qui nous semblent dire que la Russie souhaite se lancer dans un effort diplomatique, auquel nous sommes bien sûr également tout à fait prêts. Il est peut-être trop tôt pour dire ce qu'il en est, mais nous sommes fermement convaincus du besoin d'une solution politique. Est-ce une possibilité ou non que de créer un cadre pour un dialogue avec la Russie qui fasse sens? Je salue les différents formats. Nous avons besoin de pourparlers bilatéraux entre les différents alliés. Nous avons besoin du format de Normandie. Nous avons besoin du Conseil OTAN-Russie. Et je salue d'ailleurs à ce titre les efforts de beaucoup de leaders des pays de l'OTAN qui ont rencontré le président Poutine, qui ont contacter la Russie. Le chancelier Scholz est à Moscou aujourd'hui. La semaine dernière, le président Macron s'y trouvait. Bien sûr, le président Biden a été en contact à plusieurs reprises avec le président Poutine, de même d'ailleurs que le premier ministre Johnson et bien d'autres. Il y a donc une multitude d'efforts de la part des alliés de l'OTAN pour contacter la Russie, pour dialoguer avec la Russie. Et nous espérons que nous pourrons recevoir une réponse russe bientôt, une réponse à nos lettres, à notre jeu de propositions. Nous les invitons à s'asseoir autour d'une table, à tenir avec nous une réunion et à aborder les divers sujets que nous sommes prêts à débattre. Il est trop tôt pour dire si nous voyons des choses qui se décantent sur le terrain, mais nous vous le dirons lorsque ce sera constaté, mais en tout cas, sachez que nous suivons de très très près les agissements de la Russie. Parce que ce que nous voyons, c'est un renforcement des troupes en Ukraine et autour de l'Ukraine, mais aussi un renforcement de la présence de l'OTAN sur le flanc est de l'Alliance pour défendre et protéger tous les alliés. Je l'ai vu de mes yeux, les groupements tactiques auxquels j'ai rendu visite juste avant la Noël en Lettonie et en Lituanie sont bien en place. En vendredi, j'étais en Roumanie. Nous avons déployé de plus gros contingents de troupes OTAN sur le terrain. Nous avons plus d'aéronefs en théâtre. Nous avons plus de moyens maritimes. Nous sommes donc là pour défendre les alliés et nous ne voulons absolument pas laisser la place ni à une erreur de calcul, ni à une interprétation erronée. Alors, l'Ukraine, nous la soutenons, bien sûr, mais pour les alliés, nous offrons des garanties de sécurité à 100%. Garanties que nous démontrons aussi par le renforcement de la présence américaine en Europe de l'Est depuis quelques semaines.
Je voulais poser une question subsidiaire à la question de mon collègue. Pourriez-vous nous indiquer ce qui, pour vous, constituerait une désescalade? Quelles sont les troupes qui devraient se retirer? Et est-ce que vous pensez que la nouvelle structure de force de l'OTAN à l'Est est là pour durer?
Ce que l'on devrait voir, c'est un retrait substantiel de troupes, mais aussi d'équipements. Ce que nous avons vu, c'est en fait qu'ils ont acheminé non seulement des troupes, mais aussi de l'équipement lourd. Et souvent, il faut beaucoup plus de temps pour acheminer l'équipement lourd que les hommes en armes, que les troupes. Et ce que nous avons constaté précédemment, c'est en fait que les Russes ont retiré une partie de leurs troupes, mais ont déjà acheminé de l'équipement lourd. Et donc, les troupes peuvent être ramenées sur zone très rapidement. Ce que nous aurions besoin de voir, c'est un retrait significatif et durable de troupes, de contingents humains, mais aussi d'équipements lourds. Et puis n'oublions pas, et comprenons le bien, ce que nous avons vu l'année dernière déjà, cela a commencé au printemps dernier, avec des hauts et des bas, bien sûr, et puis quand même une tendance à la hausse du contingent présent en Ukraine et aux frontières de l'Ukraine, c'est que cela a un impact sur la situation de sécurité en Europe. Et c'est la raison pour laquelle l'OTAN répond non seulement à la crise actuelle en Ukraine et aux frontières de l'Ukraine, en rehaussant sa présence, la présence de l'OTAN dans les alliés à l'Est, mais aussi pour répondre à des ajustements de la posture qui est nécessaire à l'Est au vu de ce qui est en face de nous. Nous avons augmenté le groupement. Il y a une proposition d'augmentation d'un groupement tactique en Roumanie et je salue d'ailleurs la proposition de la France de prendre la tête de ce groupement tactique en Roumanie. Donc nous avons augmenté notre présence dans les alliés sur le flanc Est. Et cela se fait depuis plusieurs années avec les groupements tactiques, la nouvelle structure de commandement de l'OTAN, la nouvelle présence aérienne, les éléments facilitateurs. Et puis, bien sûr, ces derniers mois, ces dernières semaines, nous avons répondu à la crise qui se décante. Et puis, bien sûr, nous accompagnons cela, nous accompagnerons cela.
Politico. Monsieur le secrétaire général, au début des Jeux Olympiques, on a lu une déclaration commune de la Russie et de la Chine contre l'expansion de l'OTAN. Est-ce que vous pensez que l'un des résultats de cette crise pourrait être un renforcement de l'alliance entre la Chine et la Russie contre l'OTAN? Et est-ce que vous pensez que si l'OTAN ne s'était pas exprimé ainsi à propos de la Chine lors du sommet de juin 2021, cette alliance entre la Russie et la Chine n'existerait peut-être pas?
Tout d'abord, l'OTAN doit répondre à la réalité du terrain. Et la réalité veut que la Russie et la Chine se rapprochent depuis plusieurs années. Ces deux pays mènent des exercices conjoints. Travaille beaucoup plus de concert au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les exercices combinés sont de plus en plus fréquents. Très récemment, il y a d'ailleurs eu un exercice dans l'océan Indien avec l'Iran. Ce sont des réalités de terrain qui se décantent depuis quelque temps et qui ont une incidence sur notre sécurité. Il est donc impossible de nier ou de ne pas tenir compte de ces phénomènes. C'est ce que l'OTAN a fait ces dernières années, surtout depuis le sommet de l'été dernier, où pour la première fois, nous avons eu Nous avons exprimé clairement la menace que représente la Chine pour notre sécurité. Mais dans le même temps, nous voulons aussi dialoguer avec la Chine parce que nous avons besoin de dialoguer pour parler de la maîtrise des armements, d'autres questions importantes telles que le changement climatique et autres. C'est ce que nous faisons. Et si l'on sait que la Chine développe très rapidement de nouvelles capacités nucléaires, des missiles hypersoniques, des missiles longue portée, des missiles qui peuvent toucher directement le territoire de l'OTAN, il est impossible d'escamoter cette question. Bien sûr, parce que nous voyons aussi que la Chine se rapproche de nous dans l'Arctique, en Afrique du Nord, menace nos infrastructures essentielles aussi, qu'elle présente une cybermenace. Et ce que nous voyons, c'est que deux puissances autoritaires, la Chine et la Russie, travaillent main dans la main parce qu'elles n'apprécient pas un ordre mondial fondé sur les règles. Elle n'apprécie ni la liberté ni la démocratie. C'est la raison pour laquelle les pays souverains ont le droit de choisir leur avenir démocratique. Elles ne veulent pas et nous ne voulons pas d'un monde où de grandes puissances peuvent décider du destin de pays de plus petite taille. Il en va de principes fondamentaux. Le principe que les pays libres et démocratiques peuvent choisir de rejoindre une alliance comme l'OTAN ou de ne pas rejoindre une alliance comme l'OTAN. Il faut le respecter. Nous respectons les décisions démocratiques et souveraines. Par exemple, la Suède et la Finlande qui décident de ne pas être candidats à l'adhésion, nous le respectons, de même que nous respectons le souhait de l'Ukraine de rejoindre notre alliance. La Chine et la Russie ne respectent pas cela. Dans une déclaration conjointe, la Russie et la Chine ont dit clairement qu'ils ne souhaitent pas que les pays puissent décider eux-mêmes de leur avenir, ce qui démontre une divergence de vue fondamentale au niveau des valeurs ou du monde dans lequel nous vivons. Je veux vivre dans un monde où des pays démocratiques et libres travaillent, vivent dans un ordre mondial fondé sur l'état de droit, pas dans un monde où les sphères d'influence peuvent décider de ce que les pays peuvent ou ne peuvent pas faire.
Merci, Anna. Monsieur le secrétaire général, que pouvez-vous nous dire de votre rencontre avec le ministre de la Défense de la Géorgie? Est-ce que vous avez parlé de l'Ukraine? Pouvez-vous nous en dire davantage? Et la semaine dernière, lors de votre conférence de presse ici dans la salle, le président de la Pologne a indiqué qu'il souhaitait une réunion de haut niveau avec la Géorgie et l'Ukraine lors du sommet de Madrid. Qu'en pensez-vous?
Tout d'abord, je me réjouis de rencontrer le ministre de la Défense géorgien. Cela atteste de l'important partenariat que nous avons avec la Géorgie. Nous venons d'ailleurs de renforcer notre coopération de diverses manières. Nous menons des activités ensemble. Nous organisons des exercices aussi ensemble pour démontrer comment l'OTAN et la Géorgie travaillent de concert. Nous continuons à apporter notre aide aux efforts de réforme en Géorgie. Nous continuons bien sûr aussi à soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie, ce qui donc fait partie de ces liens étroits entre nous et la Géorgie. Et je suis impatient que cette réunion s'organise. Pour le reste, et pour les différents formats du sommet de Madrid, il faudra y revenir. Nous allons essayer de...
Une ou deux questions en ligne avant de revenir dans la salle. Vege. Merci, Monsieur le secrétaire général. Je voudrais vous poser une question à propos des fuites de renseignements de ce mois en provenance des États-Unis et d'autres pays à propos d'une éventuelle invasion de l'Ukraine demain ou jeudi. Est-ce que c'est habituel? Est-ce que ça a des implications en termes de dissuasion et de défense? Et si, selon vous, cela a eu un quelconque impact sur la Russie?
Nous avons systématiquement partager des informations sur les plans russes, sur les capacités russes et sur la tentative de la Russie de fomenter un prétexte à une action agressive contre l'Ukraine, ce que l'on appelle souvent une opération sous faux pavillon. Une opération d'intoxication, parce que nous pensons que c'est une possibilité, c'est une éventualité. Nous voulons donc exposer les agissements de la Russie, car c'est une manière de relever le niveau et de les dissuader d'envoyer des forces vers l'Ukraine, de fomenter des émeutes, de menacer le gouvernement ukrainien ou tout simplement d'envahir tout bonnement l'Ukraine, puisque ce sont là les options que nous pensons que la Russie pourrait déployer. C'est aussi une manière de contrer, d'empêcher que les événements se déroulent ainsi. Le renseignement, ce n'est pas prédire l'avenir. Le renseignement, ce sont des informations, et lorsque nous partageons ces informations, c'est dans un souci de prévenir les événements, prévenir des événements qui auraient pu se passer s'ils n'avaient pas été exposés. Nous essayons par ce biais d'empêcher les agressions russes contre l'Ukraine.
DPA. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Vous m'entendez? Vos commentaires m'incitent à conclure que vous n'avez pas l'intention de revenir sur votre volonté de renforcer le flanc Est de l'OTAN. Si vous constatez un véritable retrait d'hommes et de matériel de la part de la Russie en Ukraine et alentour, est-ce que vous pourriez revenir sur cette volonté de renforcement?
L'OTAN est une alliance défensive. Tout ce que nous faisons a pour but de protéger et de défendre les alliés. C'est un premier élément. Deuxième élément, nous avons rehaussé notre présence sur le flanc est de l'Alliance depuis 2014 à cause de l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, à cause des efforts continus de la Russie de déstabiliser l'Ukraine, notamment en soutenant les séparatistes du Donbass. Donc, ce renforcement de notre présence sur notre flanc est, il existe depuis plusieurs années. Et c'est une réponse défensive de l'OTAN sur son flanc est. Et puis, ces quelques derniers mois, ces quelques dernières semaines, nous avons vu que cette présence, notre présence sur notre flanc est a encore été renforcée à cause de la situation en Ukraine et aux frontières de l'Ukraine. Nous verrons s'il faut ajuster notre posture en fonction des événements en Ukraine et autour de l'Ukraine. Mais il est trop tôt pour spéculer parce qu'à ce stade, nous n'avons pas vu une réelle désescalade russe. Nous parlons de 100 000 hommes ici, des troupes prêtes au combat qui sont proches de l'Ukraine, à la frontière ukrainienne, certes, mais aussi proches du territoire de l'Alliance. Proche des pays baltes, proche de la Pologne, qui a une frontière avec l'Ukraine, et les pays baltes qui ont une frontière avec le Bélarus. Donc nous verrons en fonction des actions de la Russie, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura de toute façon des conséquences inscrites dans la durée, et d'ailleurs que dans la durée nous allons assister à une détérioration de l'environnement sécuritaire en Europe, en raison des agissements de la Russie. Donc nous verrons s'il ne faut pas une présence de plus longue durée sur ce flanc est de l'Alliance.
Une dernière question. Robert Lupitu, Kala Europeana. Monsieur le secrétaire général, le ministre roumain de la Défense a annoncé aujourd'hui que la Roumanie avait pris les mesures nécessaires pour déclarer la capacité opérationnelle initiale d'un groupement tactique basé en Roumanie. Quels sont les délais selon vous pour ce déploiement et cette installation?
Je n'anticipe pas des décisions des ministres. J'ai rencontré le président Klaus Johannes vendredi. Nous avons abordé la question du groupement tactique. J'en ai parlé également avec le président Macron et j'ai exprimé mon soutien. J'ai dit que je me réjouissais de l'offre de la France de prendre la tête du groupement tactique présent en Roumanie. Alors, il faudra un petit peu de temps pour que l'ensemble des décisions aient été prises et mises en place et pour que les paramètres du commandement et du contrôle qui doivent être établis avant qu'un groupement tactique soit pleinement opérationnel soit en place pour que l'on ait vraiment une présence de ce groupement tactique en Roumanie. Mais n'oublions pas pourquoi nous réfléchissons au fait qu'un groupement tactique sera sous la houlette de la France. Mais et puis n'oublions pas non plus que les États-Unis ont également envoyé des renforts de troupes en Roumanie qui viennent s'ajouter aux milliers d'hommes déjà présents. Donc déjà cela fait 2000 hommes avant même que ce groupement tactique soit mis en place. Et les États-Unis ont dit que ce ne serait peut-être pas une présence permanente, mais c'est un renfort significatif de la présence de l'OTAN en Roumanie. Et cela est déjà en place. Je l'ai vu. J'ai vu arriver les unités à Costanza. Nous avons des aéronefs américains, des contingents allemands et italiens aussi. Donc, pour les besoins imminents de renforts de troupes en Roumanie, nous avons déjà déployé des renforts supplémentaires en Roumanie. Je me réjouis d'ailleurs des mesures prises par les États-Unis et par d'autres. Et il est important de scinder cela, qui est un ajustement immédiat de la posture, d'un ajustement à plus long terme, c'est-à-dire une présence plus permanente d'un groupement tactique en Roumanie et sur le reste du flanc est de l'Alliance.
Revenons dans la salle. Je représente l'agence de presse ukrainienne. Le discours de la Russie s'accompagne d'une série de décisions relativement agressives par la Douma, le Parlement russe, qui suggère par exemple au président Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes de Donetsk et Lugansk. Alors, je comprends bien que ce ne sont pas des sujets qui concernent directement ni exclusivement l'OTAN, mais est-ce que vous pensez que cela risque d'avoir un impact sur les négociations entre la Russie et l'OTAN? Et une deuxième question, si vous le permettez, est-ce que la Russie a répondu d'une manière ou d'une autre, à votre proposition de convoquer un nouveau conseil OTAN-Russie.
Je réponds d'abord à votre seconde question. Non, nous n'avons pas reçu de réponse à notre proposition de convoquer une série de réunions de conseil OTAN-Russie. Nous avons eu une réunion du conseil OTAN-Russie en janvier qui a duré 4 heures, qui a été difficile, mais importante. Nous étions tous assis autour de la table, la Russie et tous les alliés, pour débattre de l'Ukraine, des conséquences sécuritaires du renforcement russe en Ukraine et alentour. Et cette seule réunion fut déjà importante. Mais à ce stade, nous n'avons pas reçu de réponse de la Russie à notre invitation de tenir une série de réunions du Conseil OTAN-Russie. Nous n'avons pas reçu non plus de réponse de la Russie à notre liste de propositions écrites quant au sujet que nous sommes prêts à aborder avec eux lors de ces conseils OTAN-Russie. Alors, nous sommes impatients de recevoir une réponse russe dont nous nous féliciterons. Maintenant, voyons le type de réponse que nous recevrons et quand nous la recevrons. S'agissant de la question de la reconnaissance par la Russie des républiques populaires de Donetsk et Luhansk, ce sont les noms qu'ils se donnent, si cela intervient, cela sera une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté ukrainienne, sans aucun doute, parce que Donetsk et Luhansk font partie de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. C'est donc une violation flagrante du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine et de surcroît des accords de Minsk. Cela va donc encore compliquer l'éventualité de trouver une solution politique sur base des accords de Minsk. Et je soutiens aussi tous les efforts déployés par la France et l'Allemagne dans le cadre du format de Normandie pour trouver une solution politique négociée dans le cadre du format de Normandie. Et bien sûr, la reconnaissance de ces deux territoires comme étant soi-disant des entités indépendantes viendrait totalement miner ces efforts et serait une violation des accords de Minsk. Merci. Ceci conclut cette conférence de presse. Rendez-vous demain.